L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission L'AJT du local. Je suis aujourd'hui en compagnie de Claire en studio à Château-Gontier. Bonjour Claire.
Eh oui, bonjour à tous, ça fait du bien d'être en studio avec tout le monde.
c'est plus agréable, c'est clair. C'est justement bien. C'est le cas de le dire, oulala, quelle blague encore une fois, pour commencer cette émission donc du jeudi 7 janvier 2021. Aujourd'hui on va parler de fleuristes récompensés pour leur belle vitrine de Noël à Château-Gontier. Hugues Le Mercier qui prend la suite de Yann Hugedet au refuge de l'Arche à Saint-Fort. Il revient sur son parcours, les conséquences de la fermeture actuelle du refuge et ses projets pour l'année suivante. Et puis on va parler entre autres de fougères fossilisées depuis des milliers d'années dans notre série sur la réserve du musée scientifique de Laval.
Mais tout de suite Marie, un point sur l'actualité. Après les violences au Capitole aux États-Unis, les élus mayennais s'inquiètent pour la démocratie.
Et vous avez sûrement vu ces images, hein, le Congrès américain envahi par des dizaines de militants pro-Trump hier après-midi pour empêcher la validation de l'élection de Joe Biden comme président. Images impressionnantes qui ont fait réagir Olivier Richefoux, le président du département, qui estime que la démocratie doit être respectée et que ces événements aux États-Unis sont inadmissibles. Selon le député Guillaume Garot, voilà où mène le populisme, haine, violence et négation de la démocratie. Une alerte aussi pour nos démocraties européennes. Fin de citation. La députée Géraldine Bannier évoque de son côté des images d'horreur et une atteinte inouïe à la démocratie.
Premier jour de vaccination contre la Covid-19 en Mayenne.
Les premières piqûres ont donc eu lieu ce matin au centre hospitalier de Laval pour les professionnels de santé, les aides à domicile et les pompiers âgés de plus de 50 ans. Ce premier centre de vaccination peut accueillir 50 personnes par jour pour le moment. Olivier Richefoux, le président du conseil départemental, a d'ailleurs demandé au ministre de la Santé l'élargissement de cette vaccination aux professionnels de moins de 50 ans. En parallèle, la vaccination commence aussi dans 3 EHPAD dans le département, à Bouer dès aujourd'hui, à Lucerie et à La Celle-les-Châteaux.
Florian Berco veut créer les conditions d'une campagne de vaccination réussie.
Le maire de Laval assure que la vaccination, seule perspective de sortie de crise à cette date, doit s'amplifier. L'élu souhaite intervenir sur l'information du public pour lever les doutes existants et la logistique. Pour le député mayennais Guillaume Garot, tout doit être fait pour vacciner un maximum de nos concitoyens. Il demande dans un courrier adressé à l'Agence régionale de santé l'accélération de l'ouverture de centres de vaccination. Il plaide aussi pour une réunion du comité régional de vaccination et des comités stratégiques départementaux.
36 000 euros pour restaurer le théâtre de l'Hôtel de Ville à Goron.
Une aide apportée par la Fondation du patrimoine dans le cadre de la mission patrimoine portée par Stéphane Bern. Ce théâtre de style art déco, surplombé d'une verrière monumentale, a été découvert en 2019 lors de la rénovation de la salle d'honneur de la mairie. La restauration du lieu a coûté près de 190 000 euros et bénéficiera donc de 36 000 euros grâce au loto du patrimoine, le reste étant financé par des subventions et par la commune.
Un cycliste renversé par une voiture ce matin à Laval.
L'accident a eu lieu dans le secteur Oudino vers 7h30. Un cycliste a donc été renversé par un automobiliste qui ne l'avait pas vu malgré l'éclairage du vélo. Les policiers appellent les conducteurs à la vigilance alors que le jour se lève encore tard en ce moment.
Plus de 150 jouets pour le secours populaire.
C'est le résultat de la collecte effectuée par les transports urbains lavallois du 1er au 24 décembre dernier. Les jouets ont été remis à l'association. Ceux qui sont neufs seront offerts aux enfants défavorisés à Noël 2021. Et ceux d'occasion seront vendus à petit prix dans la boutique du secours populaire pour financer l'achat de cadeaux neufs.
Permanence gratuite d'un avocat le 13 janvier.
Et oui, c'est une nouvelle permanence proposée par le Conseil départemental d'accès aux droits de la Mayenne. Une permanence téléphonique le 13 janvier à 9h, assurée par un avocat du barreau de Laval. Inscription avant le 11 janvier au 06 24 22 74 40 ou par mail à cdad.mayenne@gmail.com.
Et sur la route du Vendée Globe, Yannick Bestaven prend le large.
Yannick Bestaven, en effet, en tête de course, le skipper de Maître Coq creuse l'écart pour ses poursuivants, Damien Seguin et Charlie Dalin, avec plus de 420 000 nautiques d'avance. Sur son bateau VNB Mayenne, Maxime Sorel, lui, est dixième à la fin du groupe de tête.
Et Marie, elle a participé à la magie de Noël, la vitrine de l'atelier Nature à Château-Gontier.
Les fleuristes de la place de la République sont les grandes gagnantes du concours organisé par l'association des commerçants Castel Shopping, un concours organisé sur Facebook sur le thème de Noël et de la gourmandise. C'est leur vitrine richement décorée qui a obtenu le plus de votes, on le disait, sur Facebook. Une belle surprise pour les fleuristes Nolwenn Gourand et Karine Oran.
Très contente et surprise parce que je m'y attendais pas. Bah ouais, quand tout le monde est venu comme ça d'un coup, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Non, j'étais pas au courant. Donc c'est une agréable surprise pour un début d'année. Alors on a fait sur le thème petit chalet, avec du bois, tout ce qui est sapin, du rouge, les sucres d'orge. On a fait sur le thème traditionnel, Noël traditionnel, vu les circonstances. On a voulu remettre un petit peu de chaleur pour les clients et les gens, les personnes qui passent. Tous les ans, on fait des décorations de Noël à thème. Donc en fait, après, on s'est pris au jeu. Alors la structure, elle a été faite déjà par un artisan de Château-Gontier qui nous a aidés à la reposer. Et après, on a fait nous-mêmes redécorer tout l'intérieur en gardant l'esprit de l'intérieur du magasin aussi. On a fait l'extérieur, mais aussi l'intérieur de la boutique. Quelques fleurs, mais il y avait déjà cintre, rose de Noël. Notre vitrine, elle est aussi sur du rouge, basée sur du rouge, du sucre d'orge. On a fait des petits dessins sur la vitrine. Donc on a essayé de travailler sur le même thème tout au long de la boutique. Ah oui, nous, on a bien aimé, on a bien rigolé, c'était sympa. La vitrine, ça reflète aussi notre personnalité, Nolwenn et moi, à l'intérieur de la boutique. Donc on a voulu retransmettre, nous, comment on voit Noël. Noël, c'est la famille, c'est la joie, c'est les cadeaux, les sourires, les repas de famille. Donc on a voulu retransmettre à travers notre travail ce que notre ressenti à nous. Alors les clients, ouais, ils ont bien aimé. Quand ils rentraient dans la boutique ou même quand ils passaient sans faire d'achat, ça leur faisait du bien au moral. Voilà, ils avaient hâte qu'on éclaire. Non, les gens ont apprécié. Quand on fait des belles vitrines, même quel que soit le magasin, ça donne envie de rentrer. Quand quelqu'un n'a jamais osé rentrer dans la boutique, c'est vrai qu'il ose franchir le pas et se dire « Tiens, je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur ».
Plus que quelques jours pour admirer la décoration de l'atelier Nature qui reste en place jusqu'à lundi prochain, le 11 janvier. À noter que le nombre d'adhérents à l'association Castel Shopping est en hausse. Ils sont désormais 76 contre une petite soixantaine cet automne. Prendre ses fonctions alors que le refuge de l'Arche à Château-Gontier est fermé, ce n'est pas évident pour Hugues Lemercier, ou pas toujours évident en tout cas, qui est devenu son nouveau directeur. Mais il travaille déjà sur plusieurs projets qu'on va détailler juste après avoir écouté The Strokes avec leur morceau Tap Out.
Yeah.
c'était The Strokes sur l'autre radio. Vous écoutez toujours l'agité du local. À Château-Gontier-sur-Mayenne, le Refuge de l'Arche a un nouveau directeur depuis le début de l'année, le 1er janvier. Hugues Lemercier, il prend la succession de Yann Hugedé. Hugues Lemercier qui n'est pas un inconnu puisqu'il faisait partie depuis 2 ans du conseil d'administration de l'association qui gère le refuge. Mais laissons-le se présenter.
Bonjour, Hugues Lemercier, donc officiellement nouveau directeur du Refuge de l'Arche depuis le 1er janvier 2021. Et j'ai été en doublon avec Yann Hugedé pendant tous les mois de novembre et les mois de décembre. Préalablement, j'étais membre du conseil d'administration du CEPAN pendant 2 ans. Yann m'a appris il y a maintenant plus d'un an qu'il souhaitait quitter son poste de directeur. Il en avait évidemment informé l'ensemble du conseil d'administration. Et avec l'accord du conseil d'administration, il m'a proposé de reprendre la direction du refuge. Donc j'ai été extrêmement surpris, premièrement, de son départ, et puis agréablement surpris également qu'il me propose ce poste. Pour moi, ça a énormément de sens parce que de formation, je suis éthologue. En d'autres termes, ça veut dire que j'ai travaillé pendant quelques années sur le comportement animal, notamment en Afrique, en Malaisie. Et puis, la spécificité du refuge, c'est aussi et surtout d'être un atelier chantier d'insertion. En arrivant en Mayenne en 2007, à l'initiative de Madame L'Enfant, de la directe de l'époque, avec 4 autres personnes, nous avons été amenés à monter un chantier d'insertion qui existe toujours, qui s'appelle Alternatrie. Par la suite, j'ai été amené à être président d'une entreprise d'insertion qui existe toujours, qui s'appelle Génie. Et j'ai toujours été évidemment très intéressé par tout ce qui était inclusion, cohésion, insertion sociale. Et au sein du refuge, il y a tous ces éléments effectivement qui cohabitent et qu'il faut continuer à bien articuler. Voilà pourquoi j'ai été très content de pouvoir être nommé directeur du refuge. Alors, je succède à Yann dans une histoire familiale de plus de 40 ans. Donc, pour Yann, évidemment, tout un tas d'éléments font partie de son histoire. Il est né ici, pour ainsi dire. Et donc, moi, je ne rattraperai jamais, entre guillemets, ces 40 ans d'histoire. Donc, j'ai essayé de fonctionner vraiment dans les grandes masses et j'ai commencé par passer une semaine à travailler avec tous les encadrants techniques soigneurs animaliers pour pouvoir passer dans tous les enclos et travailler au quotidien avec les soigneurs. Donc, je me suis rendu compte, j'ai confirmé la qualité du travail qui était effectué au quotidien et puis surtout la quantité de travail à mener. Et c'est vrai qu'au quotidien, les 1300 animaux que nous hébergeons ici demandent une attention toute particulière. Il ne suffit pas simplement de les nourrir et de bien les nourrir, mais il faut aussi nettoyer tous leurs enclos, nettoyer toutes les perches, nettoyer tous les abreuvoirs, nettoyer tous les sols. Et ça représente des heures de manipulation, des tonnes d'aliments à manipuler, des mètres cubes de paille à transporter. Et ça, c'est un travail que l'on répète tous les jours. Donc ces 2 mois de tuilage ont été à la fois des moments, j'ai envie de dire, purement théoriques sur tout ce qui est législation spécifique à notre refuge, et puis des moments très ancrés dans le terrain, les prochains bâtiments, les tracteurs, les camions, les animaux, les enclos.
Déjà des projets bien la tête, vous l'avez compris, mais un contexte compliqué. À cause de la crise sanitaire, le refuge a à nouveau fermé ses portes au public depuis fin octobre, une fermeture lourde de conséquences.
Alors, l'impact la plus visible, c'est évidemment l'impact économique. L'an dernier, nous avons vécu une baisse de fréquentation d'à peu près 23-25%. Nous pensions pouvoir être réouverts pour les vacances de Noël. Ça n'a pas été le cas. Donc j'attends les derniers chiffres, mais on sera au minimum sur une baisse de 25%. L'année 2020 avait été une année où finalement, juillet, août, on avait bien rattrapé le confinement des vacances de Pâques. Ce qui va se passer sur 2021 aujourd'hui, personne ne le sait. Nous souhaitons évidemment pouvoir réouvrir dès les vacances de février. Ce sont des moments extrêmement importants pour nous. Alors évidemment, il y a tout l'aspect financier, hein, lié au fait que les visiteurs ne puissent pas venir sur le refuge. Et puis après, eh bien, il y a aussi tout l'aspect psychologique, à savoir que nous, aujourd'hui, nous sommes un refuge, que notre rôle, c'est bien la sensibilisation et la protection à l'environnement, et que psychologiquement, quand notre outil pédagogique qu'est le refuge n'est pas ouvert, eh bien, c'est tous ces moments d'interaction avec les jeunes publics, les moments de rencontre du public qui ne peuvent pas avoir lieu. Donc, au bout du bout, c'est aussi une forme de retard que l'on peut prendre sur notre rôle de sensibilisateur à la protection de l'environnement. On est fermé depuis fin octobre et puis nous espérons donc cette réouverture, bien, si on nous donne l'autorisation de réouvrir la semaine prochaine. La semaine prochaine, évidemment, nous réouvrons pour pouvoir réaccueillir tous les Mayennais qui ont hâte de revenir sur le refuge. Quasiment tous les jours, nous recevons sur les réseaux sociaux des messages qui nous disent « hâte de vous revoir, hâte de retrouver les animaux, hâte de venir de nouveau vous rencontrer ». Et évidemment, nous avons cette même volonté. Dans les chiffres, pour faire simple, il faut un peu plus de 3000 euros par jour pour faire fonctionner le refuge, pour nourrir les animaux. Quand les visiteurs ne sont pas là, effectivement, l'entrée, eh bien, il faut aller trouver les financements ailleurs. Donc, nous avons été accompagnés l'an dernier par les dispositifs de l'État. Nous attendons le retour de l'État sur ces questions-là, justement, pour la fin de l'année 2020 et pour ce qui se passe sur 2021. Quoi qu'il en soit, le travail doit continuer à se faire et les sommes sont toujours les mêmes. Alors, nous avons effectivement apprécié l'aide de l'État et nous avons surtout adresser l'ensemble des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux et nous avons été assez largement aidés par toutes ces personnes. Alors, ça ne suffit pas à compenser la perte que nous avons sur 2019, mais cependant, on a pu effectivement mobiliser un nombre de donateurs assez important. Vous pouvez toujours nous soutenir en allant très simplement sur le site internet et cliquer sur « Soutenez-nous ». Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et à chaque fois, vous pouvez nous soutenir. Alors, les dons peuvent se faire au coup par coup, sur tous les mois, enfin, comme vous voulez. Nous nous faisons fort d'utiliser vos dons sur véritablement l'activité même de sauvegarde et de protection des animaux. Alors oui, il y a toujours de nouveaux projets parce que vous en avez peut-être entendu parler, la ministre de l'Environnement, Barbara Pompili, va proposer une loi pour interdire dans un temps qu'on ne connaît pas encore l'utilisation des animaux de cirque. Ce qui voudra dire concrètement derrière qu'une fois que cette loi sera passée, il faut être en mesure de pouvoir accompagner cette loi et pouvoir prendre les animaux, effectivement. Alors prendre, pas au sens d'aller les capturer, hein, mais pouvoir leur assurer, effectivement, un endroit de vie qui respecte toutes les conditions du bien-être de ces espèces. Donc, dans ce cadre-là, nous sommes d'ores et déjà en train de réfléchir à la sortie, effectivement, de nouveaux bâtiments permettant d'accueillir ces espèces. Dans les bâtiments qui, cette année, vont sortir, nous avons un bâtiment herbivore qui va être amené à sortir, on l'espère, d'ici le printemps, qui nous permettra également de pouvoir répondre aux demandes de certaines grandes associations, de pouvoir récupérer de grands herbivores type buffle comme nous en avons, ou d'autres. Mais comme vous le savez, nous ne choisissons pas les animaux que nous prenons en fonction des demandes qui nous seront faites. Alors, en fait, il est assez difficile aujourd'hui d'avoir des chiffres. Dans les chiffres qui tournent un petit peu, il y aurait actuellement en France entre 400 et 450 félins qui seraient aujourd'hui dans le périmètre des cirques. Est-ce que c'est un chiffre correct aujourd'hui? Moi, je ne le sais pas. Ce qui est sûr, c'est que dans le meilleur des cas, de toute façon, le refuge ne serait pas en mesure d'accompagner évidemment tous ces animaux-là. Donc l'idée derrière, c'est bien d'accompagner la loi, de donner un temps suffisamment long pour que des structures telles que la nôtre puissent continuer à se développer. Et dans notre ambition 2021, il est de faire du refuge vraiment le lieu de référence pour des personnes ou pour des structures qui souhaiteraient développer leur propre refuge pour justement pouvoir accompagner cette loi. Donc notre ambition, c'est bien de devenir le lieu de référence. Nous sommes historiquement le premier refuge de France. Nous sommes en nombre d'animaux également le premier refuge de France. Et nous avons une expertise de plus de 40 ans. Donc mécaniquement, nous devons devenir la référence pour toute personne qui souhaite créer un lieu identique à celui-là. Nous recevons assez régulièrement des demandes de personnes qui disent « Voilà, cette loi va sortir, nous savons qu'il y a des choses qui vont se passer, comment est-ce qu'on peut monter un refuge ?» Donc aujourd'hui, nous donnons une information de premier niveau, nous renvoyons vers les textes législatifs qui encadrent clairement la création de ces lieux. Et puis quand le niveau de compréhension de tout l'aspect législatif est passé, on peut envisager effectivement d'avoir des discussions plus approfondies avec les personnes pour tester un petit peu, non pas la véracité de leur projet ni la faisabilité, mais vraiment si ils ont bien compris que quand on accueille un animal dans un refuge, dans un sanctuaire comme celui de l'Arche, on l'accueille pour toute sa vie. Voilà, donc on ne s'engage pas sur un coup de cœur, on s'engage sur toute une vie. Dans les autres grandes orientations, comme je le disais tout à l'heure, notre rôle, c'est bien une association de protection et de sensibilisation à l'environnement. Donc nous nous devons de continuer à déployer toutes les actions en faveur des jeunes publics qui vont pouvoir nous permettre de les sensibiliser le plus rapidement possible. L'idée, c'est que les jeunes générations comprennent que utiliser des animaux à seule fin de plaisir, ce soit pas quelque chose d'évident. Et qu'au contraire, ça devienne quelque chose en se disant « Mais comment les générations passées ont pu accepter ça ?» Voilà ce que nous allons essayer de mettre en place sur l'année 2021. Même si elle est extrêmement décriée, on a effectivement des figures comme Greta Thunberg qui ne sont pas du tout dans notre périmètre et que nous ne côtoyons absolument pas, mais qui, quand elle a commencé à parler, avait 13 ou 14 ans et qui parle effectivement à toute une jeunesse ou même à des gens un peu plus âgés. On sent qu'effectivement, l'opinion publique, les questions qui tournent autour du bien-être animal au sens large, que ce soit des cirques ou autres, c'est des questions qui sont de plus en plus pertinente et puis qui anime le débat, qui anime profondément le débat public. Nous, nous sommes très éloignés du débat public ou politique, mais ceci étant, on a notre rôle pleinement à jouer, toujours sur ces questions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement.
Pour cette année 2021, le Refuge de l'Arche annonce justement une étude préliminaire pour la construction d'un bâtiment de quarantaine et de transit pour les futurs animaux accueillis et aussi une action de stérilisation des babouins. La petite pause musicale donc est assurée d'ici quelques secondes par Captain Kid, Sun One.
To leave this awful place, it's time to reach the outer space. Will you come along and help me find the sun? I can teach you, if you care, how to breathe a different air. If you come along, let's celebrate the sun. As long as you like the crew.
awful place. Start to reach the outer space. Will you come along and help me find the sun?
L'agité du local sur l'autre radio et c'est l'heure de notre chronique quotidienne des objets pour un monde par Swazik. Bonjour Swazik, aujourd'hui vous nous parlez d'un nouvel objet dans le grand magasin du monde, le sextoy.
Et oui Marie, nous allons un petit peu nous accoquiner. Alors à votre avis, de quand date le sextoy ? Eh bien, il faut savoir que les premières gravures à immiscer l'objet dans la représentation des pratiques sexuelles apparaissent au XVIIe siècle au Japon. Ces gotemiches sont alors en bois, en corne ou en métal. La pratique se répand en Europe au XVIIIe siècle. J'en veux pour preuve la description de Mirabeau dans son ouvrage « Le rideau levé ou l'éducation de l'or » d'un luxueux gotemiche d'argent doté d'un mécanisme permettant de simuler une éjaculation. Notons également qu'à la fin du XIXe siècle, la police saisissait de nombreux consolateurs censurés à l'époque. Mais curieusement, l'apologie du sextoy provient surtout des médecins qui très vite se rendent compte des bienfaits de l'objet sur les femmes souffrant de ce que l'on appelait à l'époque l'hystérie, mais qui en vrai n'était qu'une frustration due aux mœurs ultra rigoristes du XIXe siècle. C'est ainsi qu'en 1883, l'apparition de l'électricité permet au docteur Joseph Mortiver Granville de breveter le premier vibrateur électromécanique destiné à rendre le massage médical moins fastidieux. Je vous conseillerais d'ailleurs un film à ce sujet qui est vraiment formidable. Poursuivons. En 1962, le premier sex shop ouvre en Allemagne et ce sera là le début d'un immense marché mondial marquant la banalisation du sextoy. Et tout aussi banalement, le sextoy est aujourd'hui principalement fabriqué en Chine. Classiquement, il est également de plus en plus acheté en e-commerce, ce qui provoque d'ailleurs la fermeture inexorable des sex-shops. Par exemple, à Paris, depuis 2008, 60% ont mis la clé sous la porte. Pourtant, le marché du sextoy s'avère très prospère, surtout depuis le confinement. Les ventes ont augmenté de 50% depuis mars dernier. Il y a même des packs confinement qui ont été lancés, offrant des produits télécommandés pour permettre de respecter la distance de sécurité d'un mètre. Comme quoi, on n'arrête pas le progrès. Mais comme bien d'autres marchandises, le sextoy, initialement artisan du bonheur, a aussi son côté sombre. Désormais connecté, eh bien oui, il faut bien vivre avec son temps. Il collecte les données sur son utilisation. Fonctions privilégiées, périodicité, etc. Et il nourrit donc lui aussi le big data avec toutes les incidences que cela peut avoir. Vie intime des utilisateurs jetés en pâture, possibilité de chantage, sans parler des conséquences tragiques dans les pays où l'utilisation du bel objet reste toujours prohibée. Décidément, Marie, mieux vaut toujours ouvrir un œil avant de faire son shopping dans ce grand magasin du monde.
Et oui, Soizic, merci pour cette nouvelle chronique qui nous permet justement plus facilement d'ouvrir cet œil lorsqu'on fera nos prochains achats. Cette semaine, on continue d'explorer, vous le savez, la réserve du Musée des sciences de Laval. C'est notre feuilleton avec Roch Alexandre Benoît, assistante de conservation du patrimoine au Musée des sciences. Ils sont plus rares, mais existent et permettent de mieux comprendre l'évolution. On parle bien sûr des fossiles de végétaux.
On a tout un meuble en fait qui est rempli de ces collections-là. Et où ça va être des fossiles auxquels on n'est pas forcément habitué. Surtout que les plantes, c'est un peu compliqué au niveau classification, en tout cas fossiles. Parce qu'on n'a pas toujours les feuilles avec le bois, avec les racines et ainsi de suite, ou avec les fruits quand il y en a. C'est généralement vraiment totalement séparé. Donc en fait, il y a une classification pour chaque type d'organe en fait, dans les plantes. C'est-à-dire que par exemple, pour les troncs, ça peut avoir un nom. Et pour les feuilles, même si au final, on découvre que finalement, c'est la même plante, au premier abord, on ne le savait pas forcément. Et du coup, on avait donné un autre nom à la feuille. Et pareil, s'il y avait un fruit qui pouvait peut-être y être associé, mais qui n'était pas attaché directement. Donc en fait, il va y avoir trois noms, finalement, peut-être pour une même espèce. Mais après, on a des petits coups de chance où on va finir par trouver deux organes, en fait, vraiment en connexion. Donc vraiment attachés l'un à l'autre et on sait que c'est la même plante. Et auquel cas, là, on peut dire, bah, en fait, tel nom et tel nom, finalement, ça va ensemble. Mais généralement, on va quand même garder les deux noms d'origine aussi. On va avoir pas mal de choses. Après, c'est surtout des plantes du carbonifère qu'on va avoir, et notamment des fougères, beaucoup de fougères. Après, c'est pas forcément les fougères comme on les voit maintenant. Ça va être des fougères qu'on allait qualifier d'arborescentes, donc qui allaient vraiment avoir un vrai tronc sur lesquels il allait y avoir des frondes qui allaient se développer, les frondes qui ressemblent aux fougères qu'on a maintenant finalement. Mais les troncs pouvaient faire plusieurs mètres de hauteur, jusqu'à 8-10 mètres sans trop de problèmes à l'époque. C'est vraiment pas les fougères telles qu'on les voit là maintenant. Et en fait, à cette époque-là, il n'y avait pas les plantes à fleurs non plus. Elles n'existaient pas du tout, elles sont arrivées bien bien plus tardivement, au cours du Jurassique Crétacé. Fin Jurassique, début Crétacé apparemment. Les plantes à fleurs, elles existent toujours, elles ont pris même le pas en fait sur beaucoup beaucoup d'environnements actuellement. Par exemple, il y a 100 millions d'années, il n'y avait pas du tout les grandes prairies comme on les a maintenant. Ça n'existait pas du tout. Ça, c'est quelque chose qui est apparu beaucoup plus tardivement, plus autour de 40-50 millions d'années en gros. Les paysages étaient vraiment totalement différents. Si on prend par exemple le cas des plantes aquatiques, là actuellement on a des plantes à fleurs qui vivent dans l'eau douce, mais il y a plus de 100 millions d'années en gros, il y avait d'autres groupes de plantes, plantes sens large, qui allaient être présentes, et notamment des algues. Et ces algues-là, alors elles existent toujours actuellement, mais elles sont dans vraiment des niches actuellement, des endroits où il y a quasiment aucune concurrence avec les plantes à fleurs parce qu'elles tiennent pas la tête aux plantes à fleurs, elles n'y arrivent pas. Et globalement, on va les retrouver dans des endroits soit très profonds avec très peu de lumière, très calme généralement, et avec très peu de nutriments. Est-ce que c'est des zones que les plantes à fleurs n'aiment pas ? Bah, c'est en très grande partie grâce aux fossiles. On va étudier un petit peu le contenu par exemple d'une couche. On va voir que dans telle couche, on a quasiment que des fougères, très très peu de plantes à fleurs. Puis on voit que dans la couche juste au-dessus, bah, y a un peu plus de plantes à fleurs, un peu moins de fougères. Pour un même type d'environnement par exemple, un même type de roche qui reflète un même environnement. Et si on continue à monter, bah, en fait, on voit qu'il y a de plus en plus de plantes à fleurs et de moins en moins de fougères par exemple. Donc ça, ça peut être traduit directement dans la quantité de fossiles. Alors après, il y a plein de biais à prendre en compte, notamment la conservation de ces différents types de plantes, est-ce que ça peut jouer dessus ou pas, et ainsi de suite. À partir du moment où il y a vraiment un groupe qui est très 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 présent, d'un seul coup, ça se voit.
Et demain, pour ce dernier épisode, on va s'intéresser au métier de la conservation du patrimoine pour comprendre un peu mieux que ce que c'est de travailler dans une réserve de musée scientifique. Et on va terminer comme tous les jours avec notre rubrique initiative avec toi Claire. On le sait, en ce moment il fait froid, mais pour les plus motivés, les piscines réouvrent à certaines conditions.
Et oui, pour la piscine de Château-Gontier, l'espace aquatique Pierre de Coubertin, l'accès est autorisé seulement pour les établissements scolaires, les associations sportives et les personnes détenant une ordonnance et ou certificat médical. À ces conditions, la piscine est ouverte du lundi au vendredi de 17h à 19h et le mercredi de 17h30 à 19h, toujours, on le sait, dans les respects des gestes barrières. À Laval, la piscine extérieure chauffée Saint-Nicolas réouvre pour le grand public les matinées du lundi, mercredi et vendredi et toutes les journées du mardi et jeudi.
La période des fêtes, ça y est passée et le sapin reste sous le bras. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Eh oui, ben, le refuge de l'Arche de Château-Gontier propose un point de collecte pour votre sapin. Alors attention, il faut que votre sapin soit naturel, bien sûr, sans flocage, sans racines, sans sac de transport ni décoration. Les sapins permettront d'agrémenter l'enrichissement des animaux, c'est-à-dire les moments de jeu et de découverte, comme pour les félins par exemple, qui sont attirés par leur forte odeur et s'amusent avec les branches. Vous pouvez les déposer tous les jours dans le bac gris situé à l'accueil du centre de sauvegarde Valentine et Jacques Perrin, au 13 rue Félix Marchand.
Là, très bien, merci beaucoup. Claire, c'est noté en tout cas, si jamais toi aussi tu as ton sapin, voilà. Tu ne sais pas quoi en faire, on peut l'amener donc devant le refuge de l'Arche. Et donc, petit rappel, évidemment, comme tous les jours, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à nous suivre hein, pour être au courant aussi des émissions, du programme et de ce qui peut venir. Et n'hésitez pas à laisser vos propres initiatives ou ce dont vous aurez entendu parler, peut-être des choses, des sujets aussi qu'on pourrait aborder sur notre répondeur au 09 70 40 59 40. C'est la fin de notre émission L'Agité du local. À suivre à 19h, Le Grand V, qui sera consacré aux artistes de variété de moins d'1m50. Oui, ça peut être un critère. À 21h, l'émission Transistor donc donne la parole à la comédienne Lucie Rimbaud. Merci en tout cas, Claire, d'avoir été en studio avec nous.
Et oui, merci Marie, merci tout le monde et à demain.
Et puis à demain, puisqu'on se retrouve demain à la même heure à 12h15. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.